France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'œuvre de Kafka n'est pas un simple miracle, produit par l'émergence dans l'être d'un génie au sens kantien du terme. Si le personnage est singulier, et que son œuvre est unique, c'est aussi du fait de son environnement socioculturel et du tiraillement provoqué par celui-ci. Kafka a en réalité une triple identité, allemande, juive et tchèque. Il grandit dans une ville de Prague à l'ambiance tout à fait particulière, due en partie à ce mélange des cultures. William Flusser évoque même une atmosphère « golémique », adjectif dérivé du mythe du golem, hérité de la mystique juive. Car si l'on peut parler d'une abondance de présence, d'héritage culturel qui se bouscule chez Kafka, ce manque de certitude et de détermination identitaire crée aussi un vide. Comme l'évoque Max Brod, un écrivain très proche de Kafka, il y a une forme de théologie négative dans son œuvre, qui se présente comme la mise en récit d'une absence indicible. C'est la difficulté d'être soi-même qui se lit dans l'œuvre de Kafka, dans laquelle les personnages se métamorphosent ou perdent leur vie dans les méandres d'une administration inhumaine, insaisissable, comme dans le château. C'est de cette oscillation entre le trop-plein et le vide que traite ce troisième épisode de la journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois le 17 septembre 1983, avec Louis-René Desforêts, Denis Calperine, Stéphane Moses et Anka Gaifman. L'occasion d'explorer l'identité labyrinthique d'un Kafka examiné sous tous les angles, de sa théologie à son rapport à l'administration. Kafka, entre absence et présence, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Journal, page 523. Sentiment de détresse absolue. Qu'est-ce qui te relie à ces corps solidement délimités, à ces corps parlants, doués Dieu qui clignotent, plus étroitement qu'à une chose quelconque, disons à ce porte-plume dans ta main? Serait-ce le fait que tu es de la même espèce qu'eux? Mais tu n'es pas de leur espèce, c'est bien pour cela que tu as soulevé la question. La solide délimitation des corps humains est horrible. Ce qu'il y a d'étrange, d'indéchiffrable dans le fait de ne pas sombrer, d'être guidé en silence, c'est ce qui conduit à cette absurdité. Moi, pour ma part, je serais perdu depuis longtemps. Moi, pour ma part. Oui, ça, je me rends compte que c'est à peu près impossible à lire. Ça n'a plus beaucoup de sens parce que c'est... Parce que, n'est-ce pas, quand on... il dit « c'est ce qui conduit à cette absurdité », il y a deux points, entre guillemets. Moi, pour ma part, je serais perdu depuis longtemps. Il ferme les guillemets. Il ajoute « moi » pour ma part, mais là, ça ne peut pas se rendre par la voix. Alors, Janouch, page 41. Franz Kafka et moi avons souvent ri ensemble de bon cœur, encore que je ne me rappelle pas avoir jamais entendu son rire. En tout cas, je ne retrouve pas dans ma mémoire le son de ce rire, mais uniquement l'attitude corporelle qui manifestait la joie. Kafka inclinait la tête en arrière, plus ou moins vite selon son envie de rire, et entr'ouvrait sa bouche qu'élargissait un sourire, tandis que ses yeux clignaient jusqu'à n'être plus que de minces fentes, comme s'il avait tendu le visage vers le soleil. Ou bien il posait les mains à plat sur la table, rentrait la tête dans les épaules, mordait sa lèvre inférieure et plissait les yeux comme un baigneur qu'on asperge par surprise. C'est sous l'influence de cette attitude que je lui racontais un jour une petite histoire chinoise que je venais de lire je ne sais plus où. Le cœur est une maison avec deux chambres à coucher, dont l'une habite la souffrance et dans l'autre la joie. Il ne faut pas rire trop fort, sinon l'on réveille la peine dans la chambre voisine. Et la joie, est-ce qu'elle se réveille quand la peine est bruyante? Non, la joie est dure d'oreille, elle n'entend pas la souffrance dans la chambre voisine. Kafka approuva de la tête et dit « C'est juste ». C'est pourquoi l'on fait souvent semblant de se réjouir. On se bouche les oreilles avec la cire du plaisir. comme moi, par exemple. Je feins la gaieté pour me dissimuler derrière elle. Mon rire est un mur en béton. Contre qui ? Contre moi, naturellement. Mais le mur est tout de même tourné vers l'extérieur. C'est une défense tournée vers l'extérieur. Mais Kafka repoussa vite cette idée avec beaucoup d'énergie. Seulement voilà, toute défense implique du même coup qu'on recule et qu'on se terre. Tout geste en direction du monde est ainsi un geste vers l'intérieur. Aussi le mur de béton n'est-il jamais qu'une apparence qui s'écroule tôt ou tard. Car l'intérieur et l'extérieur sont liés. Coupés l'un de l'autre, ce sont deux aspects déroutants d'un mystère que nous ne pouvons que subir sans le déchiffrer. Journal, page 525. D'une lettre, c'est à ce feu que je me chauffe pendant ce triste hiver. Les métaphores sont l'une des choses qui me font désespérer de la littérature. La création littéraire manque d'indépendance. Elle dépend de la bonne qui fait du feu, du chat qui se chauffe près du poêle, même de ce pauvre vieux bonhomme qui se réchauffe. Tout cela répond à des fonctions autonomes ayant leurs lois propres. Seule la littérature ne puise en elle-même aucun secours, ne loge pas en elle-même, est à la fois jeu et désespoir. Il est indéniable qu'il y a un certain bonheur à pouvoir écrire tranquillement. L'horreur de l'asphyxie est inconcevable. Inconcevable, sans doute, de sorte que tout se passe comme si je n'avais rien écrit. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est l'humour très propre à Kafka.
Je croyais qu'il est mort en sachant qu'il laissait quelque chose.
Ah, sûrement. Ah oui, ça, je le crois tout à fait, oui.
On a été convaincu, selon vous.
Ah, je crois que...
Il demande à Max Brod de brûler. Donc c'est le fait que qu'un objet existe.
Ça veut dire, oui, ça veut dire que dans la mesure où il a demandé en effet à Brod de brûler ses manuscrits, c'est qu'il pouvait penser, craindre que ses manuscrits soient publiés un jour. Alors, journal, page 551. Une vie qui passe inaperçue. Un échec qui se voit. C'est-à-dire Kafka, je l'ai découvert, si je peux dire, enfin, assez tôt, si vous voulez, très jeune, mais sans avoir été tout de suite véritablement subjugué. Enfin, le premier livre de lui que j'ai lu, c'est La Métamorphose, et ce n'est guère que, je ne sais pas, pendant la guerre, je crois, que j'ai commencé à le lire. c'est un auteur que je lis et relis sans cesse.
Quand vous dites subjugué, est-ce qu'on peut travailler en étant subjugué, enfin, continuer à le lire, à le décrypter?
En étant subjugué?
Est-ce qu'on peut être encore critique sous le charme, si
je... Ah, mais je ne suis pas critique du tout. Précisément, à l'égard de Kafka, je ne suis absolument pas critique. Tout m'intéresse chez Kafka, la moindre ligne. Et alors, en plus, je trouve le personnage enfin, tout à fait extraordinaire, sans équivalent dans les littératures. Enfin, le personnage, si vous voulez, vu à travers ses lettres, naturellement à travers ses écrits, mais à travers sa correspondance, ou encore même à travers ses témoignages, comme celui de Janusz, malgré la naïveté de Janusz, parce qu'il y a une espèce de naïveté dans la façon dont il raconte. Mais ça me plaît assez, d'ailleurs.
Quand vous dites que vous n'êtes pas critique, c'est un peu faux, dans la mesure où vous détachez, par exemple, une phrase pour la mettre en exergue d'un de vos récits.
Mais je ne l'ai pas fait.
Non, mais enfin, non,
j'avais l'intention de le faire.
Vous êtes posé la question, quand même.
Je me suis posé la question.
Donc c'est un début de critique.
Non, pas absolument. C'est parce que, vraiment, cette phrase correspondait tout à fait au sens de ce récit que j'avais écrit, n'est-ce pas? Et je ne l'ai trouvé qu'après, d'ailleurs, je n'avais pas remarqué. Mais ça, non, ce n'est pas, je ne crois pas, parce qu'à la raconte là aussi, quand je fais un choix comme ça, anthologique, c'est évidemment un mouvement critique. Ce n'est pas vraiment un mouvement critique, d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Je ne privilégie pas certains textes qui me paraissent, disons, plus intéressants ou plus beaux que les autres. Simplement, ce sont peut-être les textes qui me parlent davantage, sans qu'encore une fois je sois capable du tout de les
commenter. Qu'est-ce qui vous fascine chez Kafka, dans le personnage?
Ah, c'est, vous savez, c'est difficile à dire. C'est un mélange de, je sais pas, de douleur et de pureté. Une extraordinaire pénétration en toute chose, une extrême modestie, mais au meilleur sens du terme. Enfin, toute chose rarissime.
L'écrivain qui est à la fois dans la littérature et qui veut être à côté?
Ah, je ne crois pas que ce soit tout à fait cela, parce qu'en somme, si quelqu'un a voulu être dans la littérature, c'est lui, mais précisément dans la mesure où il se faisait la plus haute idée de la littérature, il se pensait comme en dehors de cette littérature.
Voilà. Est-ce que vous êtes sensible à sa situation religieuse, qui est un peu cachée par l'écrivain?
Mais sa situation religieuse est extraordinairement ambiguë. Il y a, justement, dans ses entretiens avec Janusz, il y a tout un passage où il parle de cela, où il se donne quand même tout à fait comme athée. Mais, naturellement, bon, c'est en somme, chez lui, la religion, bon, c'est la religion juive, évidemment, il est extrêmement marqué par ça, il revient sans cesse à cela. Justement, des références à Moïse, à Abraham, enfin, toute la Bible. Mais je crois que ce n'est pas du tout particulier à Kafka. Je croirais même que c'était un peu le cas de la plupart, enfin, en tout cas, des Juifs d'Europe centrale. Je veux en rester là. Parce que je sens que vous allez me faire dire des bêtises. Je peux dire, c'est déjà fait. Janusz, page 186. je m'efforçais d'expliquer les idées contenues dans une pièce de théâtre que je venais de lire. Et tout cela y est tout bonnement dit, demanda Kafka. Non, répondis-je, le travail de l'auteur consiste à donner de ces choses une représentation concrète. Kafka acquiesça. C'est ce qu'il faut faire. Il ne suffit pas de dire les choses, il faut les vivre. La langue est en l'occurrence un intermédiaire essentiel, quelque chose de vivant, un médium. Mais on n'a pas le droit de s'en servir comme d'un instrument. Il faut vivre la langue elle-même jusque dans la souffrance. La langue est une éternelle bien-aimée. C'est pas une nouvelle, c'est difficile à
réciter.
Oui, c'est un fragment, oui. Nocturne. Enfoui dans la nuit. Être enfoui tout entier dans la nuit, comme il arrive quelquefois qu'on enfouisse la tête pour réfléchir. Tout alentour, les hommes dorment. C'est une petite comédie qu'ils se donnent, une innocente illusion de penser qu'ils dorment dans des maisons, dans des lits solides, sous des toits solides, étendus ou blottis sur des matelas, dans des draps, sous des couvertures. En réalité, ils se sont retrouvés comme jadis et comme plus tard dans une contrée déserte. Un camp en plein vent, un nombre d'hommes incommensurables, une armée, un peuple, sous le ciel froid, sur la terre froide. Chacun se jetait sur le sol, là où il était, le front pressé sur le bras, le visage tourné vers la terre, respirant paisiblement. Et toi, tu veilles. Tu es un des veilleurs. Tu découvres le prochain veilleur en agitant le tison enflammé que tu prends au tas de brindilles près de toi. Pourquoi veilles-tu? Il faut que quelqu'un veille, dit-on. Il faut quelqu'un. Un veilleur, que veilles-tu? Qui t'a engagé? Une seule chose, ton dégoût de toi-même te rend plus riche que le cloporte qui est couché sous la vieille pierre et veille. Préparatifs de noces à la campagne. Loin, loin de toi se déroule l'histoire mondiale de ton âme. Préparatifs de noces à la campagne, page 335. La création littéraire se refuse à moi, d'où mon plan d'enquête autobiographique. Ce n'est pas une biographie, mais une recherche et une découverte d'éléments aussi réduits que possible. C'est là-dessus que je m'édifierai ensuite, tout comme un homme dont la maison ébranlante veut en construire une solide à côté, si possible en se servant des anciens matériaux. Ce qui est toutefois fâcheux, c'est que les forces lui manquent au beau milieu de la construction, et que, au lieu d'avoir une maison branlante mais entière, il a maintenant une maison à moitié détruite, et une autre à moitié achevée, c'est-à-dire rien. Ce qui s'ensuit est pure folie, c'est-à-dire quelque chose comme une danse de cosaques entre les deux maisons. Danse dans laquelle le cosaque gratte et déblaye la terre avec les talons de ses bottes aussi longtemps qu'il faut pour que sa tombe se creuse sous lui. Préparatif de noces, page 294. Tu parles sans cesse de la mort et tu ne meurs pas. Et pourtant je vais mourir. Je chante justement mon final. Le chant de l'un est plus long, celui de l'autre est plus court. Mais la différence ne consiste jamais qu'en peu de mots. Je perds continuellement mon chemin. C'est un sentier forestier, mais facile à reconnaître. Ce n'est qu'en le suivant tout droit qu'on peut apercevoir un coin de ciel. Partout ailleurs, la forêt est épaisse et sombre. Mais me voilà maintenant continuellement, désespérément égaré. Et puis, si je fais un pas hors du chemin, je me trouve aussitôt à 1000 pas en pleine forêt, si abandonné que je voudrais me laisser tomber et rester couché à jamais. Préparatif de noces, page 362. Il a le sentiment qu'il se barre le chemin par le même fait qu'il vit. Mais ensuite, il tire la preuve qu'il vit de cet empêchement. Certains nient la détresse en se référant au soleil. Ils nient le soleil en se référant à la détresse. Il ne vit pas au nom de sa vie personnelle. Il ne pense pas au nom de sa pensée personnelle. Il lui semble qu'il vit et qu'il pense sous la pression d'une famille elle-même comblée sans doute de vitalité de pensée, mais pour qui, en vertu d'une loi quelconque qui lui est inconnue, il représente une nécessité formelle. À cause de cette famille et de ses lois inconnues, il ne peut pas être relevé de ses fonctions. Il ne veut pas de consolation, non parce qu'il ne la veut pas, qui ne la voudrait, mais parce que chercher la consolation signifie vouer sa vie à cette tâche, vivre toujours en marge, presque à l'extérieur de son existence, ne plus guère savoir pour qui l'on cherche, et par conséquent n'être même pas en mesure de trouver la solution efficace, l'efficace et non la vraie, qui n'existe pas.
Le problème de la triple culture, tchèque, juive, allemande, est à l'origine à la fois d'une déchirure de la langue et d'une enquête autobiographique que vit profondément Franz Kafka, ainsi que l'ont développé Philippe Lacoulabart, David Flusser, Jean-Michel Rey, Denise Calperine. Au fond, l'œuvre de Kafka est un avertissement pour dire cette chose mystérieuse « Je suis malheureux, je m'assieds à ma table et j'écris « Je suis malheureux ». Comment est-ce possible ? Demande Maurice Blanchot. Et en quoi cette possibilité est-elle étrange et jusqu'à un certain point scandaleuse ? Selon Max Brod, l'œuvre serait un reflet de la connaissance religieuse. Pour Kafka, l'œuvre va plus loin. La connaissance de soi, au sens religieux, est un des moyens de notre condamnation. Elle est la voie nécessaire, elle est l'obstacle insurmontable. Cette idée ancienne, venue de la Kabbale, que Charles Mopsik et Marc-Alain Wachnin aborderont dans la seconde partie, vers 22h, où notre perte apparaît comme notre salut, et réciproquement, laisse comprendre pourquoi l'œuvre peut réussir là où la connaissance échoue. La littérature est un « comme si ». Avec ses romans, par exemple, illimités plutôt qu'inachevés, Le procès, commencé en 1914, Le château, commencé en 1921, tout se passe comme si nous étions en présence de la vérité, qui n'interdit pas d'avancer, en dépit du tremblement de la loi ou grâce au tremblement de la loi, comme nous l'a expliqué Jacques Derrida.
Certainement des problèmes de communication chez lui, mais ce n'est pas le problème central chez lui. Certainement, il y avait par exemple le fondamental problème de communication avec son père. Pour moi, il y a trois choses qui me touchent chez Kafka.
Palais de justice, Paris, Wilhelm Flusser.
C'est d'abord sa curieuse théologie implicite. Ce qui m'a touché beaucoup, c'est une phrase, je ne sais pas si je la cite correctement, qui dit à peu près ça. Il faut prier tous les jours parce que Dieu est parfaitement capable d'avoir oublié qu'on a prié hier. Alors, cette vision d'une théologie de l'absurde, c'est un point central chez Kafka. Le deuxième point, pour moi, c'est ça, son ambiguïté par rapport au judaïsme. Et comme je viens à peu près de la même couche sociale que Kafka, et comme je viens de la même ville, quoique je sois une génération après lui, je ressens profondément cette... Quand il dit, quand il fait l'objection à son père de ne lui avoir donné assez de judaïsme pour être juif, mais quand même assez pour ne pas pouvoir être chrétien. Alors, vous savez, ça c'est une chose que je ressens profondément. Mais tout ce que je vous dis est tout à fait subjectif. Et la troisième chose, c'est au niveau linguistique. Kafka écrit en allemand, qui est un allemand tout à fait de papier et de poussière. Parce que c'est un allemand autrichien-hongrois, c'est l'allemand officiel de l'administration autrichienne qui n'est pas enracinée dans une véritable langue quotidienne, dans ce qu'on appelle en logique observational language. Et malgré ça, il est parvenu à donner à cette langue un impact existentiel que peu d'auteurs allemands ont réussi. Alors je répète, tout ce que j'ai dit, c'est tout à fait subjectif. Et je voudrais résumer ce que j'ai dit. C'est d'abord son attitude religieuse, théologique, je dirais, qui me paraît fondamentale. Il est en quelque sorte un prophète juif, au contraire, où il entre dans la foi par la porte du service. Deuxième point, c'est son attitude politico-sociale par rapport au judaïsme, qui est, à mon avis, typiquement de Prague. Et troisièmement, c'est son attitude vers la langue allemande.
Mais quand vous dites typiquement de Prague, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer cela ?
Prague, avant 1939, était une ville tout à fait spéciale, parce qu'elle était composée de trois éléments, quoique dans des proportions inégales, mais qui se complétaient dialectiquement, aux deux sens du terme. Ils luttaient et ils se complétaient. C'était l'élément tchèque, l'élément allemand et l'élément juif. Et ces trois éléments ont créé une atmosphère qui caractérisait Prague et qui rendait Prague une ville complètement différente de toute autre ville que je connais. Je connais diverses villes qui ont créé des civilisations, des véritables civitates. Par exemple Paris, par exemple Florence. Mais à Prague, c'était une chose différente. Il y avait quelque chose de diabolique. Il y avait quelque chose de néfaste dans l'atmosphère de Prague. Parce que cette dialectique entre les trois éléments n'a jamais réussi à former une synthèse. Maintenant, c'est fini parce que les Juifs ont été détruits, les Allemands ont été expulsés. Prague, à mon avis, est devenue une ville banale. Mais Kafka, qui a vécu précisément à ce moment où ces trois éléments ont donné une véritable explosion créatrice dans beaucoup de domaines, pour moi, Kafka caractérise ce moment critique et tout à fait éphémère, on dit éphémère en français, de cette chose.
Est-ce que cela vous, ne vous étonne pas d'être ici dans ce grand hall, pas très loin de la chambre des criés ? C'est un peu un lieu kafkaïen.
Pour moi, un lieu kafkaïen est toujours étroit. Ça s'élargit ici. Tandis que pour moi, un lieu kafkaïen, c'est par exemple le château de Prague, c'est Hradčín. Où il y a des labyrinthes dans lesquels on se perd, qui sont bien organisés, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous allez quelque part. Ah, maintenant je deviens kafkaïen. Ah, maintenant je vous raconte le château. Et je... Non, ça ne va pas. Non, ça, ceci est exactement l'opposé. Ici, nous sommes dans un endroit typiquement français, rationnel, bien structuré, symétrique. Ce n'est pas le monde de Kafka.
Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas entrer dans l'œuvre de Kafka en posant le problème de la communication.
C'est moi qui ne peux pas entrer comme ça, parce que j'ai beaucoup pensé sur la communication. C'est ça mon thème. Bien sûr, ce problème existe chez Kafka comme ça existe chez toute personne. Et c'est, comme je vous ai dit, c'est surtout l'impossibilité... Ah, vous avez raison. Quand je pense, par exemple... à son engagement d'apprendre le yiddish, qu'il n'a jamais vraiment réussi à faire, si je ne me trompe. Vous savez, Kafka est avant l'explosion des mass-médias. Donc, chez Kafka, les problèmes de communication se posent encore d'une façon pré-média.
Il utilise quand même la photographie. Il y a beaucoup de photographies dans les œuvres de Kafka, beaucoup de descriptions de photographies. La lettre au père est une sorte de photographie à la fois du père et du fils.
Bien sûr, Kafka était témoin de la révolution de la photographie. Peut-être que je ne le connais pas assez bien. Mais Kafka, à mon avis, ne s'est jamais penché sur cette terrible révolution qui est l'image technique. Pas comme par exemple chez vous ici en France, Baudelaire, qui était complètement conscient de la chose. Ce n'est pas cette image trompeuse qui semble être objectif et est plus subjectif encore que l'image traditionnelle. Vous savez, je ne crois pas que ça c'était son problème. Ah, peut-être que je me trompe.
Et qu'est-ce que vous faites du journal? Est-ce que c'est pas une, il n'y a pas une volonté là dans ce journal de communication, de communiquer avec l'extérieur, avec soi-même?
Oui, mais c'est une communication tout à fait linéaire. C'est encore une communication qui est fondée sur le texte. Kafka, à mon avis, est encore un homme complètement engagé dans l'écriture. Alors, si vous dites photographie, vous la transposez déjà en texte. Ce qui est tellement terrifiant chez la photographie et chez toute image technique, qu'elle renverse la relation entre l'image et le texte. Que ce n'est plus l'image qui explique le texte, mais que c'est maintenant le texte qui sert à l'image. Cette révolution fondamentale et qui me fait peur, cette révolution, à mon avis, qui a commencé bien sûr au temps de Kafka, je crois qu'il est passé à côté, peut-être que ce n'est pas son problème. Pour moi, Kafka n'est pas un précurseur. Au contraire, pour moi, Kafka, c'est un cul-de-sac.
Même au niveau autobiographique, vous trouvez qu'il n'a pas donné des clés pour la communication?
Laissez-moi penser.
Il y a quand même une analyse de soi-même qui peut servir les autres.
Vous voulez dire que son personnage s'appelle K? Oui, on a beaucoup parlé sur ça. C'est un auteur qui ne fonctionne plus comme un dieu, qui manipule ses personnages. C'est un auteur qui est plongé dans l'événement et qui le souffre. Mais vous voulez pousser la chose du côté de la communication et je ne vais pas vous accompagner dans ce chemin.
Le tribunal est très présent dans l'œuvre de Kafka. Là aussi, c'est un lieu de parole un peu privilégié qui pourtant me semble faussé.
Le tribunal chez Kafka, c'est le tribunal de Job, n'est-ce pas? C'est cette curieuse inversion que Dieu, qui est le juge et qui est le promoteur, on dit comme ça en français, devient l'accusé. Ah, ça, c'est tout à fait dans la tradition juive. Le tribunal est l'endroit où le juge et le promoteur passent à être l'accusé. Et où le condamner, parce que nous sommes tous condamnés avant d'être jugés par le fait que nous naissons. N'est-ce pas? Être né, c'est la condamnation à la mort avant tout jugement. Or, Kafka est quelqu'un dans une certaine tradition juive qui veut renverser les rôles et que de condamné passe à acteur, à auteur, on dit comme ça en français, à celui qui accuse.
Il fait ça pour quelles raisons? Pour des raisons d'écriture, de narration, ou pour d'autres raisons plus mystérieuses, plus occultes?
Il n'y a rien de mystérieux dans cela, je crois. Si vous vous rendez compte que vous êtes condamné à la mort, et que vous savez de quelque sorte que c'est juste que vous soyez condamné à la mort, mais vous ne savez pas quel est votre crime, si vous vous rendez vraiment compte de cette situation absurde de l'être humain, vous essayez presque spontanément de renverser les rôles. Je crois que toute la culture et toutes les religions ont pour but de cacher ce fait. Or, Kafka est un de ceux qui veut dévoiler cette tromperie.
Est-ce que vous pensez que cette œuvre dite autobiographique, cette œuvre intime, vient comme pour renforcer une œuvre qui se creuse de l'intérieur et qui disparaît à Kafka?
Alors, je continue à parler subjectivement. Il faut que je vous dise que ma perception de Kafka a maintes fois changé au cours de ma vie. Quand j'étais petit, et quand Kafka était encore presque inconnu, l'idée que j'avais de Kafka, c'est de quelqu'un extrêmement drôle et extrêmement ironique. Il racontait constamment des anecdotes avec une pointe tout à fait déroutante. Bien sûr, je n'ai pas compris ces anecdotes. parce que j'étais trop jeune. Mais j'avais l'impression d'être en présence de quelqu'un presque diabolique, avec cette ironie et ce constant rire. Ensuite, quand j'avais peut-être 14-15 ans, vous savez, Max Brod était un grand ami de notre famille. Et Max Brod a souvent discuté avec mon père le phénomène Kafka. Dans ce deuxième moment, Kafka m'est apparu comme un créateur de langues. Et ça m'a énormément influencé dans ma vie. Je ne l'ai pas suivi, parce que pour lui, le problème, c'était de souffler de la vie, comme je vous ai dit, dans une langue tout à fait administrative. Ensuite, quand j'étais déjà au Brésil, et quand j'ai commencé à saisir de quoi il s'agit dans le nazisme, j'ai commencé à voir en Kafka un prophète du nazisme. J'ai vu dans ce que vous appelez des fictions, et vous avez avec juste raison mis tout de suite en doute s'il s'agit de fictions. Or, j'ai vu que ces fictions étaient peut-être des visions du futur. Je ne dis pas qu'il avait quelques dons de prévision. La chose était déjà en in statu nascendi dans son présent à lui. Mais il a réussi à élaborer cette fonction de l'appareil stupide et presque omnipuissant qui ensuite s'est installé à Auschwitz. Et ce n'est pas seulement dans l'Amérique et dans le procès qu'on le voit. C'est presque partout présent, cette vision de la manipulation de l'homme en tant qu'objet qui va mener à la destruction et bien et aussi, autant de l'homme manipulé que de l'homme qui manipule. Et plus tard encore, peut-être il y a 20 ans, quand j'ai relu Kafka, parce que ça m'arrive de relire Kafka, et quand je l'ai relu, j'ai eu une autre impression. L'impression que chez Kafka, l'écriture attient un point de no return, quand on dit ça. Un point où il n'y a plus possible ni de continuer, ni d'aller en arrière.
Un point de non-retour.
Un point de non-retour. Alors, peut-être est-ce un des derniers écrivains, au véritable sens du terme, de notre civilisation. Je vous répète, je ne crois pas qu'il soit un précurseur.
J'aimerais bien qu'on revienne à Prague, chez votre père, où on retrouvait Max Brod vous parlant du phénomène Kafka. Que pouvait-il dire?
Je me souviens de deux choses qu'il a soulignées. C'est-à-dire, vous savez, mon père était très polémique. Alors Kafka disait Brod disait peut-être des choses qu'il ne voulait pas dire parce que mon père l'obligeait à être. Vous savez, il y a deux choses chez Brod par rapport à Kafka. L'une, je vous ai déjà dit, il m'a révélé l'engagement de Kafka dans la langue. Et l'autre chose était que Brod était sioniste. Kafka ne l'était pas vraiment. Bien sûr, il s'engageait au sionisme, mais il avait toujours des doutes, parce que pour lui, tout engagement social était douteux. Sa pensée était aussi radicalement existentielle qu'il se trouvait dans autrui seulement en tant que découverte de la mort chez autrui. Et je crois que c'est au fond la raison pourquoi il ne pouvait jamais se marier. Parce qu'un des problèmes, vous allez dire que c'est un problème de communication,
absolument, mais ça va
beaucoup plus loin. Cette impossibilité d'assumer la responsabilité pour autrui.
On parle beaucoup et souvent de la théologie dite négative de Kafka.
Je crois que je l'ai dit avant, comme première chose que j'ai dit. C'est que ce qu'on appelle Dieu par un mot tout à fait conventionnel apparaît à Kafka comme par exemple à Angelo Silesio, ou par exemple comme à beaucoup d'autres penseurs, à Maître Eckhart, ce Dieu apparaît comme le entièrement différent de moi-même, c'est-à-dire ma négation. Mais je répète, je ne crois pas que Kafka puisse être considéré comme un penseur. C'est quelqu'un qui a souffert. Penser, c'est agir. Vous savez, c'est l'autre forme du verbe. C'est la forme passive, non pas la forme active. Ah, peut-être que je me trompe.
Il est vrai que le personnage central du château est un personnage absent à lui-même, qui sans cesse cherche une identité, cherche du réel, comme pour et mieux se...
C'est vrai. Kafka est quelqu'un qui a souffert, sans l'avoir découverte d'une façon intellectuelle, la vacuité du moi. Cette chose que Husserl ensuite élabore, n'est-ce pas, par sa réduction eidétique, Kafka l'a vécu. Mais si vous voulez faire de Kafka un philosophe, vous ne parviendriez pas. Son attitude vis-à-vis les problèmes n'était pas une attitude philosophique, c'était une attitude religieuse au sens d'être une attitude passionnelle de passion et de souffrance.
Vous, vous avez essayé d'analyser la mort de Kafka, cette laryngite tuberculeuse, enfin, qui le coupe de la parole?
Non. Je ne l'ai pas analysé. J'ai accepté le fait que Kafka soit mort d'une façon absurde, parce que ça convient à sa vie. Quoique, on peut se demander s'il y a autre forme de mort. Peut-être Kafka a nous réveillé. Comme il y a des personnes dans chaque génération, il nous a peut-être réveillé à cette au fait que tout engagement est par avant, échoue par avant, par la mort. Mais peut-être j'exagère.
Selon vous, était-il fondamental que Kafka naisse à Prague? Est-ce que Prague, vous croyez, est la base de la vie de Kafka?
Mais c'est vrai de toute personne, non? L'endroit où je nais me forme de quelque sorte. Avec Prague, c'est encore plus fort, parce que, comme je vous ai déjà dit, Prague a une atmosphère que je n'ai pas retrouvée dans aucun autre endroit. Mais peut-être parce que je suis aussi pragois. Mais je connais beaucoup de villes, vous savez. Et je n'ai nulle part trouvé cette atmosphère, comment je devrais la caractériser?
Étouffante.
C'est peut-être pas le mot. Golemique. Cette atmosphère du golem.
Qu'est-ce que c'est que le golem?
Le golem, c'est un homme artificiel qui, selon un mythe, a été fabriqué par un rabbin, le Rabbi Lev, si je ne me trompe, au commencement du XVIIe siècle. C'était un personnage fabriqué en argile qui est devenu vivant parce que le rabbin a mis sous sa langue le nom de Dieu. Et tous les vendredis soirs, le rabbin enlevait ce papier et le golem est redevenu un morceau de terre. Et un jour, le rabbin a oublié de le faire et le golem a, selon ce mythe, détruit une grande partie de la ville. Et selon moi, le mythe du golem est typiquement pragois et Kafka aussi.
Et maintenant, c'est Prague qui a peur de Kafka.
Mais ce n'est plus le même Prague. Laissez-moi penser ce que je dirais encore pour en finir avec.
Il y a une histoire qui vous a beaucoup troublé, étant enfant?
Je ne dirais pas que quand j'étais enfant, Kafka ne m'a pas troublé. Il m'a intrigué, on dit comme ça en français. J'étais intéressé à savoir quel type de personnage est-ce. Mais j'étais trop jeune pour être influencé directement par lui. Et quand j'étais petit, admettons dans les années 21-22, il venait souvent à la maison. Mais j'étais trop petit. Et il y avait un café dont j'ai oublié le nom. Vous savez, où les gens se rencontraient et où mon père est allé toujours jouer aux échecs et où au Kafka se trouvait tous les après-midi. Si j'ai fait un effort, je vais me souvenir du nom de ce café. Et
de quoi parlait-il, Kafka et votre père?
Comme mon père était mathématicien et comme mon père était un personnage extrêmement égocentrique, j'imagine qu'il parlait mathématiques. Mais probablement, il discutait aussi, parce qu'à ce moment, le problème de ce théâtre yiddish était énormément dans la tête de Kafka. Peut-être qu'il parlait aussi de ça. Ce souvenir est passé dans ma mémoire à travers des truchements. D'abord par ce que les autres ont raconté, ensuite par ce que j'ai lu, et ensuite par la littérature secondaire, par ce que j'ai lu sur Kafka. Donc, si je veux être honnête, je ne peux pas vous dire si j'ai une image de Kafka.
Et est-ce que vous avez une image de Kafka? Est-ce que vous avez vu Kafka?
Oui, mais je ne sais pas si je me souviens. Je vous dis, quand je fais un effort, je vois quelqu'un qui ricane. Je me souviens d'une seule anecdote, peut-être elle est entrée dans la littérature, qui m'a touché comme typiquement de lui. C'était un mendiant qui va chez Rothschild et dit « Écoutez, monsieur Rothschild, je n'ai pas mangé il y a 3 jours. » Et Rothschild lui répond « Ah, mon ami, quelquefois, il faut s'obliger à manger. » Ça me donne une idée de ce personnage.
Thank you.
J'aimerais me tourner vers Denise Calperine et vers vous, Stéphane Moses. Enfin, de quoi est faite, selon vous, la pudeur administrative chez Kafka?
Ah, cette pudeur administrative, j'aime bien l'expression, qui a eu pour effet, à cause des difficultés qu'éprouvait Kafka vis-à-vis de la culture allemande et de la langue allemande, de se placer comme en retrait, justement, par rapport à cette langue. Et il a écrit ce qu'on appelait la langue des chancelleries, c'est-à-dire la langue administrative, parce qu'elle était celle qui était le plus dénuée de caractéristiques, de particularités, j'allais dire presque de sonorités. Et il a écrit pour cette raison un allemand qu'on a beaucoup admiré, très pur, très classique. Mais ce n'était pas, je crois, dans une recherche strictement stylistique et littéraire, mais au contraire, parce que ça répondait, c'était la seule solution qui lui restait. Et à cet égard, il a écrit à son ami Max Brod, et il a mis face à face les impossibilités où il se trouvait de trouver une identité, de se déclarer ayant une identité claire, et l'impossibilité linguistique avec laquelle il se débattait. Alors il parlait de l'impossibilité de ne pas être juif, de l'être encore, de le redevenir dans un sens authentique. Et là-dessus, évidemment, se plaquait, si on peut dire, l'impossibilité de ne pas écrire, l'impossibilité d'écrire en allemand, l'impossibilité d'écrire autrement, à quoi on pourrait presque ajouter, écrivait-il, une quatrième impossibilité, l'impossibilité d'écrire. Il écrivait cela en 1922, quand il avait déjà créé la majeure partie de son œuvre. Je pense que cela en dit long sur cette neutralité de la langue chez Kafka, et la neutralité aussi du narrateur et de l'auteur, ce narrateur qui évolue dans une espèce de monde qui semble être un peu dans une sorte d'entre-deux du rêve et de la veille, et où rien qui pourrait marquer une spécificité n'apparaît. On sait par exemple que dans les différentes versions du procès, il y a des textes qui ont disparu, tout simplement parce qu'ils en montraient encore trop. Par exemple, une visite de Joseph K. à sa mère, ou des textes qui décrivaient des rêves proprement dits. Alors, cette narration qui semble si souvent avoir un caractère onirique, et pourtant il n'y a pas de rêve dans l'œuvre, dans l'écriture de Kafka.
Mais d'ailleurs, le rêve est toujours sous-tendu par le quotidien, ou l'inverse, par le quotidien est sous-tendu par le rêve. Est-ce que c'est compatible, ça, avec notre état et notre statut d'homme aux prises avec le réel d'aujourd'hui?
C'est le fondement même du fantastique de Kafka réside dans la mise en relation brutale entre des choses tout à fait incroyables, irréel, fantasme, si vous voulez, et puis une réalité quotidienne, banale. Et le surnaturel, si vous voulez, le non-naturel, se produit au sein du réel le plus quotidien. Un exemple extrêmement simple, si vous voulez, je peux vous en donner deux, et d'ailleurs je peux vous en donner trois même, parce que je crois, enfin, il y en a un qui est tout à fait saisissant, c'est vers le début du procès. Joseph K. travaille dans un bureau, dans une administration qui est décrite comme une administration tout à fait banale. Et puis, il ouvre un placard, et puis à l'intérieur du placard, il trouve un homme torturé, attaché par des fils, etc. Un placard de son bureau. Bon, ça, c'est le fantastique dans le réel. Maintenant, il y a deux autres exemples qui sont extraordinaires. C'est la première ligne de la métamorphose, où un matin, Grégor Samsa se réveilla transformé en cafard. Mais ça, ce n'est pas plus fantastique que la première ligne du procès. Un matin, Joseph K. se réveilla et deux hommes entrèrent et vinrent l'arrêter. Si vous voulez, les deux choses sont tout aussi fantastiques et tout aussi réalistes, hélas, quoi, l'une que l'autre. Je veux dire, pas dire qu'on se transforme tous les matins en cafard. Je veux dire que ce que Kafka voulut dire par là, c'est que le fantastique sert aussi à mettre en question notre définition de la réalité. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'impossibilité de définir très nettement la frontière entre le réel et le non-réel, disons, c'est que lorsque Kafka a publié Le Procès, il semble que cette scène où deux policiers, enfin deux inconnus, frappent à la porte un matin, viennent arrêter quelqu'un, était considéré comme quelque chose d'absolument fantastique. Puis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, en Europe et dans le monde, c'est la réalité la plus quotidienne.
Moi, j'ai découvert Kafka avec, je crois, tous les Tchèques à Prague, ou avec presque toute la jeunesse juive à Prague dans les années 60.
Jérusalem, Hanka Geifmann.
C'était en 63 que La Métamorphose et Lettre à son père ont été traduits et publiés. C'était, je crois, la première fois depuis 47 que Kafka était...
excommunié.
À 47, il était excommunié, en fait. Et puis,
ça vous a touché, la lettre au père, par rapport au vôtre?
Pour moi, c'était une révélation. J'ai eu 14 ans et bien, c'était...
Et votre père était aussi silencieux que celui de Kafka?
C'était pas tant mon père, c'était la métamorphose, je crois, qui me frappait. Et bien sûr, la question des juifs à Prague, parce que moi, je viens d'une famille très ancienne, juive de Prague. Et on a gardé tous les années les fêtes juives, aussi pendant les années, qui c'était très dangereux. En même temps, je me suis toujours demandé pourquoi pas plus. C'est-à-dire, où est le vrai judaïsme? Et les questions de racines, d'aller à la synagogue, pourquoi qu'est-ce qu'on garde? Comment est-ce qu'on garde la Shabbat s'il faut aller à l'école? Comment est-ce qu'on garde Yom Kippour? Bien, on ne mange pas, mais la synagogue est à l'autre côté de la ville. Comment est-ce qu'on arrive? Les questions très pratiques d'un côté, d'autre côté, les questions essentielles du judaïsme. C'est encore une fois, si vous voulez, une question kafkaïsque. Sur un plan d'une fille de 14 ans.
Est-ce qu'on peut transporter Kafka de Prague à Jérusalem?
Ah, bien sûr, oui. Mais la question d'identité, c'est la même question.
C'était le troisième de 9 épisodes de la journée Kafka d'Isabelle Huel, Jacques Taroni et Jean Dave, diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 1983. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.